européenne. Chacun, évidemment, aussi se souvient de son engagement d'élu. Il est entré dans la vie politique d'abord comme suppléant de Maurice Doucet en 1973, l'année où son père, Michel Auguet, a, pour des raisons de santé, renoncé à siéger comme député. Il a été député suppléant pendant de très longues années, avant d'être élu conseiller municipal en 1983, conseiller général en 1985, vice-président du département pendant deux mandats consécutifs en charge de l'économie, et deux fois député, la première fois en 1993 et la deuxième fois en 2002. Son bilan est aussi connu de chacun. Je crois qu'il est utile de rappeler le rôle qu'il a joué dans la fondation du parc naturel régional du Perche, dont il a eu très tôt l'intuition, et avec lequel il a réussi, avec Jean-Claude Lenoir et Jacques Dussutour, à être un des fondateurs. Et c'est encore aujourd'hui un outil qui marque l'identité de notre territoire. Il fait partie de ces élus qui n'ont jamais hésité à s'impliquer dans les dossiers et qui, jusqu'au bout, ont toujours su défendre les intérêts de leur ville et de notre ville, y compris au-delà des sensibilités politiques, puisque sur de nombreux dossiers, comme la lutte contre les crues avec la construction de la digue qui protège aujourd'hui nos gens le retrouve, ou la rénovation et le sauvetage d'un certain nombre d'entreprises industrielles dans les années 80-90, qui ont été particulièrement cruelles pour notre ville. Il n'a, malgré les dissentiments qu'il pouvait avoir avec les élus de la municipalité, jamais hésité à travailler avec eux et à défendre ensemble, auprès du département, auprès de la région, auprès de l'État, les intérêts de notre ville. Et au fond, c'est aussi ce qui lui a permis de marquer de son empreinte des chantiers importants et qui lui a donné l'occasion de travailler si utilement pour notre ville. Évidemment, tout a été dit sur les rivalités qui ont marqué l'histoire politique de notre ville depuis l'après-guerre. Je pense que ici, peut-être encore plus qu'ailleurs, les passions politiques se sont exprimées. Et je pense que parmi toutes les qualités qui étaient les siennes de sérieux, élu travailleur, puisque quand un sujet arrivait en conseil municipal, le sujet était débattu, analysé, décortiqué, faisait l'objet de contre-propositions. Et les conseils municipaux avaient plutôt l'habitude de durer jusqu'à 2h du matin, pendant plusieurs mandats de suite, que 45 minutes chrono, comme c'est parfois le cas aujourd'hui. J'en ai le souvenir personnel, puisque ma chambre donnait sur de l'autre côté de l'île sur la mairie, et jusqu'au milieu de la nuit, je voyais la salle du conseil éclairée, jusqu'à des heures absolument indues. Mais c'était la garantie aussi d'un débat efficace et d'une capacité à faire des propositions et des contre-propositions qui permettait également à la majorité d'avancer. Évidemment, chacun a pu voir qu'après sa carrière d'élu, où il a remporté des succès très importants électoralement, subit aussi des échecs qui font dire que sans doute, vis-à-vis de ses capacités et de ses compétences qui auraient pu lui permettre d'aspirer à des fonctions et à des responsabilités encore plus éminentes, il fut sans doute un homme plus grand que son destin à cet égard. Il n'a pas manqué de prendre du recul sur la chose publique, de s'engager et de continuer à s'engager au niveau associatif, puisque, comme chacun sait, nous lui devons, en tant que simple citoyen, mais responsable associatif, la réouverture de l'église Saint-Hilaire et le début de sa restauration. Il fut un des piliers de l'association Saint-Jean pendant toute sa vie, aux côtés de Jean-Pierre Baglan, dont il était un ami d'enfance. Il fut également un animateur et un défenseur du patrimoine à travers les Amis du Perche, à travers les associations auxquelles il participait. Un homme de culture et de livres, puisqu'il a aussi Il connaissait particulièrement l'histoire de Nogent, l'histoire des habitants, de leurs familles, des personnalités aussi qui ont marqué la ville, comme Paul Deschanel, sur lequel il a écrit un ouvrage qui fera date. Et d'une certaine façon, il nous a donné aussi l'exemple d'un homme qui, passé sa carrière d'élu, dans lequel il avait pourtant investi beaucoup d'énergie, a su garder une forme d'engagement qui le faisait respecter de tous, y compris comme président du mouvement européen pour l'Eure-et-Loire, où jusqu'à ces dernières semaines, il assumait cette responsabilité au service du débat public et au service d'idéaux qui l'ont animé toute sa vie. Je garde en tout cas, pour ma part, en mémoire, le fait que le souvenir d'un homme également non seulement remarquable par sa bienveillance, sa gentillesse à l'égard des autres, son souci d'aider les autres, mais aussi d'un homme courageux à tous égards, dans les relations humaines comme dans les choix publics. Et pour ma part, je remercie le destin qui nous a fait nous rencontrer, puisque retiré pour partie de la vie publique, il voyait les choses de plus loin, mais il n'en voyait plus que l'essentiel. Et c'est sans doute aussi ce qui lui a permis de surmonter le souvenir de certaines rivalités et d'avoir ce geste qui restera fondateur dans notre histoire politique locale, de tendre la main à ses anciens adversaires et de vivre avec nous l'expérience d'une conciliation, d'un rassemblement qui nous a amené à nous connaître, je le crois aussi à nous apprécier, qui nous a permis, depuis le début de notre engagement, de bénéficier de ses conseils, puisque il était l'homme qu'on interrogeait et qu'on appelait dans les choix un peu difficiles, sur les dossiers un peu sensibles, comme on l'a fait encore très récemment sur l'aménagement de la place Saint-Paul, où il participait à nos réunions, sur la création du musée de l'histoire du Perche, où il a participé là aussi bénévolement au comité scientifique que nous avions monté, à la rénovation du trésor, enfin la création du trésor de l'église Notre-Dame, au projet de mise en valeur et de restauration de l'hôtel Dieu, et puis encore plus récemment, et là je tiens, ce sera sans doute l'objet d'une délibération que nous aurons à prendre prochainement, au projet d'accueil de jour pour les personnes dépendantes qu'il portait là aussi personnellement avec Monsieur Crabbe et qui sera sans doute très prochainement à l'ordre du jour de nos débats. Et d'une certaine façon, je crois qu'on peut dire que là où tant d'autres se perdent dans les détails, lui avait une vision, une clarté et d'une netteté remarquable, un jugement assez infaillible sur les hommes et sur les situations, et que ces conseils nous manqueront, comme nous manquera aussi le soutien et l'affection qu'il avait pour certains d'entre nous, et je pense notamment à sa nièce, Martine, que je salue ici, et à qui j'adresse ainsi qu'aux proches et à la famille toutes mes condoléances, aussi à Jérémy, dont il était très proche, et ainsi qu'à tous ceux qui ont rejoint notre équipe sous son impulsion et avec son soutien. Moi, je crois que le propre de la vie politique, c'est que on soutient ou on combat une image, mais on ne connaît pas les personnes qu'on combat ou qu'on soutient. Un ancien Premier ministre disait qu'il fallait en politique savoir fendre l'armure. Ça dit quelque chose du fait que dans la vie publique, les hommes et les femmes combattent casqués, et que personne, en réalité, à part leurs proches, ne connaît vraiment leur vrai visage, leur vraie personnalité, leurs doutes, leurs sentiments, et que les coups qui peuvent être portés portent sur des cuirasses, sur une apparence extérieure, mais qu'au fond, la vérité des hommes reste inaccessible à ceux qui s'expriment à travers les passions politiques ou dans les compétitions électorales. Et donc, je remercie vraiment le destin de nous avoir permis de dépasser cette situation, d'assurer la réconciliation entre les deux traditions politiques qui ont dominé la vie politique nogentaise depuis les fondations de la République, et qui nous ont permis tout simplement aussi de vivre cette expérience assez rare dans la vie politique, de pouvoir travailler avec ses anciens adversaires et de partager ensemble une vision au service d'une ville. Donc aujourd'hui, Patrick Auguet a donc été enterré. Il a rejoint son épouse, décédée en 2017, Bernadette, au cimetière de Nogent, où repose aussi son père, Michel Auguet, qui fut à la fois notre député et notre maire, et son épouse, Geneviève. C'est avec eux qui restera dans nos mémoires. C'est avec eux que se tourne aujourd'hui une page de l'histoire de notre ville, et c'est avec eux qu'il entre aujourd'hui dans l'histoire de Nogent. J'aurai l'occasion prochainement de vous soumettre les propositions que nous aurons discutées avec ses proches et sa famille afin de marquer le souvenir dans l'espace public de la ville et de conserver le nom et la visibilité du nom de Patrick Auguet au sein de notre ville. Et nous aurons, dès que la crise sanitaire nous le permettra, l'occasion d'organiser un hommage public à la hauteur de ce qu'il a fait pour notre ville, et un hommage public aussi attendu par beaucoup de nos concitoyens qui, dans cette période, sont souvent privés de ce dernier moment de rencontre que sont les obsèques, et où tant de nos concitoyens partent dans des comités restreints sans même avoir pu connaître de la part de ceux qui les ont connus un geste de souvenir ou un dernier geste d'adieu et d'amitié. Mesdames et messieurs, dans l'attente de ces décisions que nous ne manquerons pas de vous soumettre, je vais vous demander de vous lever et d'observer une minute de silence à la mémoire de M. Auguet. Merci. Alors, avant d'aborder l'ordre du jour de cette réunion, je voudrais faire un point sur la situation sanitaire que traverse notre ville aujourd'hui. Comme vous le savez, à la suite d'une diffusion du variant anglais et d'un cluster initial au sein de la sécurité civile, nous connaissons un pic épidémique sensible avec un taux d'incidence qui a franchi cette semaine la barre des 900, qu'une multiplication de clusters, de cas positifs dans les entreprises, les administrations publiques, à l'hôpital et dans un certain nombre, dans un nombre de plus en plus grand de lieux d'activité et de lieux de vie de Nogent-le-Rotrou. Nous dépistons massivement à la fois dans les cabinets d'infirmières, dans les pharmacies et au centre de dépistage de la salle des colonnes les personnes qui se présentent, et nous avons à chaque fois un taux de positivité qui est quasiment de 24%, donc ce qui veut dire qu'une personne sur quatre qui se fait tester aujourd'hui à Nogent-le-Rotrou est positive, avec un confinement qui s'étend à travers les familles et qui fait peser aujourd'hui sur la santé d'un grand nombre de nos concitoyens une menace réelle. Et je tiens d'ailleurs à saluer ceux d'entre nos collaborateurs à la mairie et ceux de nos élus également qui ont eux-mêmes été touchés et qui ont traversé une période difficile. Je veux leur dire évidemment mon soutien. Cette situation, elle appelle notre attention depuis maintenant plusieurs semaines. J'ai demandé aux autorités sanitaires de faire en sorte que nous puissions avoir les moyens d'y répondre. Et les moyens d'y répondre, ce sont deux priorités. C'est d'abord casser les chaînes de contamination, puisque malgré tous les moyens qui sont déployés localement pour pouvoir dépister massivement les habitants, il y a eu pendant ces derniers jours une période où nous avons été débordés et où il fallait plusieurs jours pour pouvoir se faire tester, plusieurs jours pendant lesquels des personnes étaient potentiellement positives, porteuses de symptômes et sans réponse sur la nature de leur éventuelle contamination. J'ai demandé aux autorités sanitaires de faire en sorte que nous puissions massivement dépister une grande partie de la population en un temps restreint. C'est ce qui nous occupera à partir de la semaine prochaine, puisque nous allons dépister les principales usines de la ville, une par jour, toutes les usines de plus de 100 salariés, donc Valeo, Eurowipes, Marie-Laure PLV, et Bébrone et Valégrin, donc qui sont un facteur de fragilité pour notre ville, puisque notre ville est très industrielle, avec des équipes qui ne sont pas télétravaillables et qui travaillent en équipe en milieu confiné et qui, malgré donc des règles sanitaires très strictes, doivent être impérativement surveillées. J'ai aussi une grande préoccupation pour la rentrée scolaire qui commencera à partir de lundi. Moi, je souhaite dire aux parents que toutes les mesures sont prises pour assurer la sécurité des enfants et des familles. Dès lundi, la cantine municipale livrera à l'ensemble des écoles des paniers de pique-nique qui seront consommés en classe, afin d'éviter absolument le brassage des classes dans l'espace de l'école. Et nous veillerons avec Nadine Chailloux-Cochelin à ce que les menus et les conditions soient organisées de façon satisfaisante pour les enfants, à répondre à l'inquiétude des familles aussi à l'arrivée et à la rentrée, avec sans doute des arrivées échelonnées dans les écoles qui sont en discussion avec les services de l'éducation nationale. Jeudi matin, nous procéderons à des tests salivaires dans les écoles. Alors, les tests salivaires ne sont pas encore disponibles en nombre suffisant, mais nous avons ciblé avec la direction académique le collège Arsène Meunier, les écoles Jean Massé et Paul Langevin, afin, là aussi, de permettre de dépister en une matinée et avec un résultat rapide la totalité des enfants scolarisés dans ces établissements, mais qui, étant fixés sur différents quartiers, permettent quand même d'avoir une bonne vue sur un large échantillon de la population de la ville. Et puis surtout, j'ai demandé à la préfète et à l'ARS d'accélérer de façon significative la vaccination, puisque la propagation du virus dans les familles fait peser une menace forte sur les personnes les plus âgées. Le taux de létalité du Covid, comme vous le savez, passe la barre des 20% dès lors qu'on franchit le seuil de 80 ans, ce qui est absolument redoutable. Et donc, nous sommes dans une situation où, grâce au rythme qui a été mis en place au sein du centre municipal de vaccination, du centre Pierre Mendès France, nous avons réussi sur la communauté de communes à d'ores et déjà vacciner 1300 personnes de plus de 75 ans, plus 200 personnes en EHPAD, sur les 2700 personnes de plus de 75 ans qui sont sur notre communauté de communes. L'objectif, donc la préfète m'a confirmé hier l'attribution de 800 doses pour la communauté de communes du Perche. Nous avons aujourd'hui même mis en place un centre de vaccination qui sera un centre éphémère, opérationnel au complexe sportif Robert Huvard pour la journée de demain, avec 8 lignes de vaccination, 70 personnes mobilisées pour permettre de faire passer entre 700 et 800 personnes dans la journée, ce qui sera, d'après l'ARS, la plus grosse opération de vaccination sur un même site en une journée à l'échelle nationale. Donc je veux remercier évidemment les RI de la communauté de communes, les secrétaires de mairie, les élus qui nous ont aidés. Je veux remercier les élus de la ville, les agents de la commune qui ont été mobilisés largement et qui continuent de le faire, appeler les personnes âgées de plus de 75 ans. J'indique d'ailleurs à nos collègues que dès que nous aurons épuisé l'ordre du jour, nous reprendrons et nous rejoindrons les équipes qui sont actuellement encore au travail à la mairie pour poursuivre la cellule de crise et organiser jusqu'à la dernière minute donc l'opération de demain qui mobilisera également les personnels de santé et de sécurité de la sécurité civile, les sapeurs-pompiers, la Croix-Rouge, l'ensemble des infirmières et des médecins du territoire. Je souhaite là aussi rappeler que nous avons eu des discussions avec, avec la préfète sur l'organisation de la vie communale et que dès demain matin, donc, le marché sera déplacé sur la place du 11 août avec un barriérage et un comptage à l'image de ce qui a été fait pendant la, au printemps, avec une priorité au commerce alimentaire et un sens de circulation garantissant la sécurité de tous. Toutes mesures qui seront analysées dans leur impact et complétées au fur et à mesure de la situation. J'ai bon espoir qu'avec ces mesures, qu'on peut qualifier de mesures choc, quand même, nous soyons en mesure, dans les semaines qui viennent, de réduire très fortement le taux d'incidence sur le territoire et donc de contenir les conséquences du cluster qui s'est installé au sein de notre ville. On a à l'échelle nationale, moi je le vois en tout cas dans la région Centre-Val de Loire, des situations comme le département du Cher où il y a quelques semaines le taux d'incidence était monté très très haut à 400 et puis est aujourd'hui en 15 jours redescendu très très bas à moins de 100. Donc c'est une perspective qui est possible mais qui suppose une mobilisation de l'ensemble de nos moyens. Et en tout cas je voudrais dans ce moment remercier chacun de vous, tous ceux qui ont participé. Je vois qu'un grand nombre d'entre vous ont, depuis plusieurs mois déjà, passé beaucoup de temps pour appuyer nos équipes sur les services administratifs, la prise de rendez-vous, l'accompagnement des personnes âgées les plus fragiles, le secrétariat du centre de dépistage, du centre de vaccination. Ça a été dit. Je tiens d'ailleurs à féliciter notre collègue Béatrice Lisiard qui a été récompensée par les services de l'État et élevé à la dignité de chevalier dans l'Ordre national du mérite lors de la promotion du 1er janvier 2021. Je crois qu'on peut la féliciter pour son application et la remercier beaucoup pour tout ce qu'elle a fait pour notre ville. Je crois pouvoir dire que sa réponse sera que ce fut aussi un travail d'équipe et que beaucoup d'entre vous ont aussi n'ont pas compté leurs heures au service des Nogentais. Et vraiment, je tiens sincèrement à vous en remercier. Voilà, je tiens à vous faire ce point d'information puisque il me semble important aujourd'hui et publiquement d'adresser ce message aux habitants de la ville sur le fait que la semaine qui vient sera décisive et qu'elle appelle de la part de tous un respect strict des gestes barrières, une prise de conscience de la nature du risque devant auquel nous sommes confrontés. Le variant anglais présente une forte contagiosité par la voie orale aérienne qui nécessite d'être très vigilant sur les concentrations humaines, la présence en atmosphère confinée, dans des salles fermées, et que dans cette période, il est vraiment indispensable de restreindre au maximum les contacts non contrôlés, les réunions de famille, les réunions de groupe qui sont pour partager des moments qui sont indispensables dans la vie, mais qu'il faut pouvoir maîtriser, voire différer autant que possible. Du comportement de chacun dépend vraiment la santé de tous. Et si on ne le fait pas pour soi-même, il faut le faire pour les autres. Et c'est un message donc qu'il va falloir, chacun là où nous sommes, et dès la journée de demain, continuer de marteler à ceux de nos concitoyens qui peut-être n'ont pas encore totalement pris conscience du caractère préoccupant de la situation. Je voulais vous faire ce point et dans cette attente, procéder donc rapidement à l'examen de l'ordre du jour. Il se situe dans un périmètre assez limité puisque nous avons mis un point. Cela peut vous paraître un peu surprenant, mais j'ai souhaité réunir ce conseil municipal pour ne pas perdre 15 jours ou 3 semaines sur l'avancée du chantier du jardin d'enfants de la Charmille. Et je tiens à vous informer que je n'hésiterai pas dans les semaines et les mois qui viennent à convoquer à nouveau le conseil municipal, même sur un ordre du jour restreint, puisque nous avons des chantiers importants qui se déploient, des chantiers compliqués qui nécessitent une coordination ardue. Je prends l'exemple de la place Saint-Paul ou de l'ensemble des chantiers rue Gouverneur, rue Giroux, qui sont très impactants pour le centre-ville. Si on veut les mener à bien dans un temps restreint, de façon à limiter l'impact et les nuisances qu'ils pourraient avoir sur l'ouverture des commerces et l'activité économique de notre ville, chaque semaine compte, chaque jour compte, et donc je n'hésiterai pas pour ma part à convoquer ce conseil municipal et à faire en sorte que nous ne perdions pas une semaine qui permette d'avancer et de minimiser l'impact négatif de ce que nous avons à faire sur la vie de notre collectivité. Dans cet esprit, il me faut désigner une secrétaire de séance ou un secrétaire de séance. Mon regard se tourne vers Marie-Claude Benoît Mousseau. Je vous propose aussi de valider le procès-verbal du conseil municipal du 28 janvier. Est-ce qu'il appelle des observations ? Alors, je procède à la lecture des pouvoirs. Il y a un pouvoir de M. Vergnol à Mme Cattesson. Y a-t-il des observations sur le procès-verbal du dernier conseil municipal ? Je n'en vois pas. Il est donc, je le mets au vote. Y a-t-il des abstentions ? Y a-t-il des oppositions ? Il est donc approuvé. Je vous propose d'examiner l'autorisation de signature des marchés pour le désamiantage et alors la démolition, mais qui est baptisée déconstruction partielle de l'ancienne EHPAD de la Charmille. Donc l'objet, c'est bien de démolir la partie des années 60 de la Charmille, bâtiment en béton, de procéder au détage et à l'étanchéisation de la maison Tirard, qui est un monument qui sera donc conservé, avec une restauration des fluides, de la chaufferie qui se situe dans la partie en béton, des contraintes qui sont de plusieurs ordres, d'abord liées au désamiantage, ensuite à la conservation des arbres, qui sont des arbres aujourd'hui anciens, emblématiques, et qui seront conservés et intégrés dans le futur jardin, et surtout qui permettent de viser un objectif de démolition le plus rapide possible, afin de pouvoir procéder aussi sans délai à la suite des travaux, afin de nous libérer aussi et de libérer nos capacités de suivi des chantiers sur l'ensemble des autres priorités de la commune. Une analyse des offres vous a été faite. Elle fait apparaître de façon incontestable une préférence pour l'offre de l'entreprise FH pour un montant de 245 000 euros sur la tranche ferme et de 17 000 euros pour un certain nombre d'options. Je vous propose donc de m'autoriser à signer ce marché. Est-ce qu'il y a des questions sur cette délibération ? Monsieur Huguet. Alors attendez, de quoi parlez-vous ? La commission d'appel d'offres ? Mais est-ce que c'était une commission d'appel d'offres ? C'était une mise en concurrence ? C'était pas une commission d'appel d'offres, madame la directrice ?
Ce n'est pas une procédure formalisée dans le cadre d'un marché de travaux, c'était une procédure adaptée.
Oui, c'était une procédure adaptée, donc c'était une procédure qui concerne les membres de l'exécutif qui discutent en direct avec l'entreprise. Donc puisqu'on était effectivement en dessous du seuil. Je vous en prie. Madame de Sensé.
Oui, bonsoir, monsieur le maire. Simplement, qu'est-ce qui vous a motivé cette décision ? Ce n'était pas parmi les moins chers ni parmi les plus chers, mais qu'est-ce qui a motivé ? Quelles sont les raisons pour lesquelles vous avez préféré échanger ? Simplement, sur les quelques explications techniques, peut-être que ce serait intéressant de le savoir.
Alors, c'est l'analyse des offres qui est mentionnée et décrite avec des critères techniques et financiers. Monsieur Bocquillon peut nous en dire plus. Avec un micro.
Ce sont des critères sur lesquels on ne tient pas compte uniquement que du prix, mais il y a aussi les délais qui rentrent en ligne de compte. Il y a 5-6 critères avec des chiffres pondérés à mettre en place. Et c'est donc vous devez les avoir d'ailleurs. Et en fait, qui détermine en fait le choix. C'est pour ça que ce n'est pas forcément le moins cher qui remporte, parce qu'en fait, il y a, si on peut dire, d'autres critères qui rentrent en ligne de compte, notamment dans les options. puisque les options, on a des fois des démolitions de murets, de cheminées, etc., qui sont, disons, pour certains, plus positifs que d'autres. C'est l'ensemble qui fait le... C'est suivant des critères.
Et c'est un cabinet qui a fait l'analyse des offres.
Oui, c'est un cabinet.
Ce qui permet également d'en garantir l'objectivité aux yeux de la collectivité. Pas d'autres questions ? Je vous propose de procéder au vote. Y a-t-il des abstentions ? Une abstention. Y a-t-il des oppositions ? Une opposition. La délibération semble donc devoir être adoptée. Je vous en remercie. L'ordre du jour est épuisé. Y a-t-il des questions diverses ? Monsieur Castagnier.
Juste, j'avais une question diverse. Bonsoir à tous. En fait, avec la vague de froid qui revient, je voulais juste aborder les difficultés que rencontrent pas mal d'habitants des Gauchetières qui ne peuvent pas bien se chauffer. Donc il y a eu la grosse panne lors du 1er janvier. Les services de Perche Habitat avaient donc donné des mini-radiateurs pour ces habitants, et qui a entraîné un surcoût d'électricité pour pas mal de locataires. Des surcoûts qui n'ont pas forcément été couverts par Perche Habitat. Donc, en tant que président de Perche Habitat, je voulais savoir si c'était prévu de la couverture de ces surcoûts, et est-ce que des travaux de rénovation étaient envisagés pour plusieurs barres HLM des Gauchetières, parce que c'est vrai que vivre dans des logements qui sont assez mal isolé, et puis avec les vagues de froid qu'on connaît en ce moment, c'est pas facile. Et donc on a eu plusieurs personnes qui sont venues nous voir et qui nous ont fait remonter un peu ces difficultés.
Alors, le système de chauffage du parc HLM, il a la particularité d'être centralisé avec un générateur central et un système d'équilibrage portant sur une quinzaine d'immeubles et sur plus de 1 km de distance, qui est extrêmement compliqué à gérer, qui est un choix qui a été fait dans les années à la fin des années 60 ou au début des années 70, et qui entraîne des contraintes techniques assez lourdes. Donc nous avons eu deux accidents assez impactants. Il y en a eu un premier l'année dernière, avec une rupture de canalisation sous la rue du Val qui a occasionné 24 heures de perte totale de pression sur 4 immeubles, et nous en avons vu aussi un donc le 31 décembre dernier. Alors évidemment, les fuites de cet ordre, les ruptures de cet ordre, elles ne préviennent pas, elles interviennent en général quand il fait froid, puisque notre système de chauffage est rarement mis en défaut quand il fait chaud. Et moi, je salue l'engagement immédiat à chaque fois des services de nos gens Perche Habitat, puisque sur l'immeuble dont vous parlez, puisqu'il s'agit d'un immeuble, nous avons donc distribué des chauffages électriques. Il y a contestation là-dessus, mais il n'y a pas de surcoût, puisque le surcoût sera pris en charge sur la facture d'électricité, en dépit des inquiétudes d'un certain nombre de locataires. Et je voudrais ici que les choses soient marquées très clairement, puisque c'est ainsi que les choses non seulement ont été décidées, mais légitimement. Après, nous avons un programme qui n'est pas tellement un programme de rénovation de l'ensemble du système, qui est un programme de démolition des barres qui sont aujourd'hui les plus anciennes et qui représentent le plus de fragilité. C'est dans cet ordre d'idées que nous allons démolir à la fin de l'année le 2 rue du Val, l'année prochaine le 24 et le 26 Perche, et l'année suivante le 23, 25 et 27 rue de Laborde, ce qui va permettre là aussi d'équilibrer le système global. Et je rappelle que dans le rétablissement des fluides, par ailleurs, on a une difficulté, c'est que comme le système est intégré, le chauffage doit, la pression doit être réglée sur les différents étages avec plus de pression en haut et moins de pression en bas. Donc il faut, quand il y a eu un dérèglement, une déstabilisation du système, revisiter l'ensemble des radiateurs à tous les étages, c'est-à-dire dans une même journée, visiter tous les appartements avec les gens qui ne sont jamais là, en tout cas jamais là avant, puisque un certain nombre travaillent très tôt et reviennent très tard, ce qui complexifie les choses et font qu'en fait il faut souvent 24 heures pour rétablir le système là où, si on avait accès aux appartements, on pourrait le faire en quelques heures. Donc nous avons hérité, mais historiquement, d'un système qui est très complexe. Le changer nous coûterait quelques millions d'euros. À cet égard, je crois qu'on a des priorités d'entretien et de rénovation des logements qui sont aujourd'hui encore plus urgentes. Mais si des locataires, je pense que ce sont les mêmes, se sont adressés à vous, qui ne se seraient pas déjà adressés à nous, nous sommes preneurs de leur contact pour pouvoir leur réexpliquer la situation et, comme nous l'avons déjà fait, répondre à leurs questions.
Très bien, merci beaucoup. J'insiste vraiment sur cette détresse qui est vraiment assez forte de plusieurs personnes qui sont venues nous voir, et on espère vraiment que le fait d'avoir ces pannes récurrentes, et c'est vrai qu'il nous avait dit qu'à des moments la purge devait se faire tous les jours, enfin. Donc c'est une détresse qui est assez dure à vivre. Et en tout cas, je vous remercie pour l'attention que vous y porterez.
Elle est fondamentale. Hein.
Absolument.
Y a-t-il d'autres questions ? Madame de Soncier ?
J'ai juste une question concernant la situation de l'épidémie. Anne-Jean le retrouve. Quel est le taux d'occupation à l'hôpital ? Hein ? Quelle est la pression sur l'hôpital actuellement ?
Alors, nous n'avons pas de service lié au Covid chez nous, mais dans le département, le taux d'occupation des lits Covid est de 100%. L'hôpital, aujourd'hui, il est à un taux de remplissage qui est quasiment atteint, et nous subissons des cas positifs dans les équipes médicales qui diminuent d'autant notre capacité à gérer à la fois le flux naturel et le flux prévisible et programmé des opérations et les arrivées inopinées à travers les urgences de personnes contaminées.
Merci. Cela signifie que le corps médical n'a pas été vacciné ? Enfin, c'est une question générale, ce n'est pas vous le responsable. Je suis bien
non, mais on peut le présumer. Enfin, il y a eu des vaccinations, mais elles ne sont pas systématiques, puisqu'il suffit de lire le journal pour voir qu'effectivement, il y a débat au sein du corps des professionnels de santé sur ce point. Alors, en d'autres pays, on aurait injecté d'office du Sputnik 5 à tout le monde. Comme nous sommes encore en démocratie et que le gouvernement a l'air sensible à l'idée du respect des libertés individuelles, nous sommes dans une situation où il faut faire preuve de pédagogie et de conviction. Mais pour la part, comme tous les élus, on a attiré l'attention des autorités sanitaires sur non seulement la vaccination des professionnels de santé, mais également sur l'accumulation de stocks de vaccins AstraZeneca, pour lequel il y a des stocks qui commencent à se constituer, qui n'arrivent pas à être écoulés. Il y a plus de la moitié des médecins, 52% des médecins généralistes qui se proposent d'en administrer. Mais une difficulté, c'est que ces médecins, ils ont un agenda qui est plein, puisque les médecins chez nous, dans le département, ont des plannings très très remplis, et que organiser à leur échelle un planning de vaccination, c'est une charge extrêmement lourde. Nous, on voit ce que ça donne au centre de vaccination. Organiser un flux de rendez-vous organisé et programmé de façon à pouvoir contacter les gens, les convaincre, les faire venir à l'heure et remplir toutes les formalités administratives. Et là, je salue le professionnalisme des autorités du ministère de la Santé sur leur capacité à associer l'acte de vaccination avec un nombre de papiers administratifs qui défiera nos plus brillants archivistes dans les générations à venir, mais par contre qui handicape la rapidité du processus. Donc on a cette difficulté-là. Je signale qu'en plus des vaccins, donc Pfizer, qui seront administrés demain, Nous aurons aussi des doses d'AstraZeneca supplémentaires, mais qui peuvent être utiles pour vacciner des personnes qui n'arrivent pas à se déplacer. C'est un cas qui s'est déjà produit. Hein. Il y a des gens très très âgés qui ne se déplacent plus pour aller dans un centre de vaccination. Je pense à une institutrice retraitée qui fut l'institutrice de mon prédécesseur, qui a aujourd'hui 102 ans et qui habite dans la maison en face. Je ne donnerai pas son nom par respect pour le secret médical, mais qui était d'accord pour se faire vacciner, mais pas pour sortir de chez elle, puisque la difficulté de transporter un vaccin Pfizer depuis le centre Pierre-Mendès France en traversant le parc jusqu'à l'autre côté de la rue Gustave Lebon me donne l'idée que vraiment c'est impossible à imaginer sur ce type de produit. Donc le vaccin AstraZeneca est particulièrement indiqué aussi pour les personnes qui ne se déplacent pas. La difficulté, c'est de les convaincre, et tous ceux qui prennent des rendez-vous en ce moment même avec les personnes de plus de 75 ans savent que il y a toujours des questions sur la nature du vaccin et qu'avant de fixer le rendez-vous, il faut avoir en général la personne vous fait tout l'historique de ses problèmes de santé depuis la cinquantaine. Pose toutes sortes de questions sur le vaccin lui-même, et à la fin vous dit que par ailleurs elle n'est pas forcément libre aux horaires indiqués. Donc tout ça prend du temps pour caler un rendez-vous, mais je pense qu'il y a une défiance à l'égard du vaccin AstraZeneca et qu'il faut pouvoir le surmonter, parce que les chiffres aujourd'hui et les études scientifiques sont incontestables sur le fait que son taux d'efficacité atteint 90 à 95%, là où, je le rappelle, le vaccin contre la grippe est souvent beaucoup moins efficace. S'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose de mettre un terme à ce conseil municipal et de nous transporter à l'hôtel de ville pour reprendre nos activités programmatiques et vaccinatoires. Merci à vous.